Bonjour, je m'appelle Garance Munoz et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, à quoi pourrait ressembler le monde si Donald Trump est réélu président des États-Unis en novembre prochain ? La question inquiète les spécialistes des relations internationales car l'ancien président ne suit aucune règle en la matière, le rendant imprévisible et menaçant pour la stabilité mondiale. Sur l'OTAN, par exemple, Donald Trump a assuré lors d'un discours en Caroline du Sud en février dernier qu'il encouragerait la Russie à envahir les pays qui ne contribueraient pas suffisamment financièrement aux dépenses de l'Alliance.
Ils devaient tous de l'argent et ne voulaient pas le payer. Je suis arrivé, j'ai fait un discours et j'ai dit « vous devez payer ». L'un des présidents d'un grand pays s'est levé et a dit « si nous ne payons pas et que nous sommes attaqués par la Russie, allez-vous nous protéger ?» J'ai répondu, vous n'avez pas payé ? Votre compte est en souffrance ? Il a dit, oui, imaginons que ça arrive. Alors non, je ne vous protégerai pas. En fait, je les encouragerai à faire ce qu'ils veulent. Vous devez payer. Vous devez payer vos factures.
Alors, comment expliquer la stratégie internationale de Donald Trump ? À quoi peut-on s'attendre s'il est réélu, notamment vis-à-vis de l'Ukraine et d'Israël ? Et pourquoi cette stratégie fonctionne-t-elle d'un point de vue électoral ? Pour répondre à ces questions, je reçois Gilles Paris, éditorialiste au Monde et ancien correspondant à Washington. L'imprévisible diplomatie de Donald Trump, une menace pour l'équilibre du monde, un épisode réalisé par Thomas Zeng. Bonjour Gilles.
Bonjour Garance.
Gilles, on va discuter ensemble du programme international du candidat Donald Trump et des conséquences possibles sur le monde. Mais avant ça, j'aimerais que l'on revienne un peu en arrière, avant même son premier mandat de 2017. Quelle politique étrangère défendait-il avant de devenir président ?
Alors avant d'arriver à la Maison-Blanche, Donald Trump ne s'était pas exprimé énormément sur la politique étrangère, mais les lignes de force qui apparaissaient, c'est qu'il voulait se placer plutôt en rupture avec les interventions américaines qui avaient eu pour toile de fond la guerre contre le terrorisme. Et il se présentait comme un anticonformiste qui s'inscrivait dans ce personnage en marge du consensus de Washington. Il se plaçait en rupture avec les deux grands partis traditionnels, démocrates et républicains, remettait en cause le rôle de gendarme du monde des États-Unis et remettait en cause surtout tout ce que pouvaient dire les centres de réflexion, les spécialistes de relations internationales qui avaient pignon sur rue à Washington.
Mais sa ligne que l'on qualifie souvent d'isolationniste, ce « America first », on est d'accord que ce n'est pas nouveau aux États-Unis. C'est un courant politique qui a déjà existé avant l'arrivée de Donald Trump.
Oui, c'est un débat qui est très ancien, qui est aussi ancien que les États-Unis eux-mêmes. Il y a toujours eu des tensions entre un engagement dans le monde et la préoccupation plutôt de se concentrer sur les affaires intérieures. Lors de la Première Guerre mondiale, par exemple, les États-Unis étaient très divisés entre ceux qui voulaient porter secours aux Européens et ceux qui voulaient plutôt ne pas trop s'en mêler. Le débat s'est reproduit à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale, qui se conclura, on le sait, par le débarquement américain en Normandie et qui va ouvrir une grande parenthèse interventionniste américaine, si grande qu'on avait presque oublié cette partie isolationniste qui était aussi une des composantes de la culture politique étrangère américaine. Ensuite, il y a eu la guerre froide et cette guerre froide a plutôt durci la position interventionniste qui se justifiait d'autant plus qu'il y avait en face des États-Unis un ennemi suprême, l'URSS.
Et donc en 1991, l'URSS s'effondre, ça remet tout en question ?
Effectivement, une situation nouvelle s'est créée. Il y avait d'un côté un courant qui pensait que les États-Unis, devenus de fait l'hyperpuissance, pouvaient plus que jamais peser sur la marche du monde. Et puis il y avait ceux, au contraire, comme Pat Buchanan, par exemple, un candidat à l'élection présidentielle de 1992, pensait que le moment était propice pour de nouveau se retirer dans les frontières américaines. Mais le 11 septembre va arriver, qui va provoquer un sursaut d'interventionnisme. On l'a vu en Afghanistan, puis en Irak. Et cette surréaction de la guerre contre le terrorisme va entraîner, comme dans un classique mouvement de balancier, eh bien un retour à nouveau vers un réflexe plus isolationniste sur la scène politique américaine.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il y a une fatigue de la guerre qui se manifeste au sein de l'opinion américaine. Leur bilan financier, leur bilan humain est très très important. Et en plus, elle se termine par des échecs. Barack Obama, par exemple, va commencer son mandat non pas sur une idée de retrait total, mais du moins avec l'idée de ne plus s'engager sur de nouveaux terrains de guerre. Il faut se souvenir que lui-même s'était opposé à la guerre en Irak en 2003. Ce qui va se traduire par le retrait américain d'Irak en 2011, évidemment à la veille de l'élection de 2012. Et deux mandats plus tard, Joe Biden va lui aussi retirer des troupes américaines, cette fois-ci d'Afghanistan, même si ça va se faire dans le chaos et si ça va entraîner le retour des talibans à Kaboul. Donc, quelque part, quand Donald Trump disait « America first », il faisait écho à une réticence très forte par rapport au consensus interventionniste qui avait longtemps prévalu.
Mais alors, qu'est-ce qui change avec Donald Trump par rapport à Barack Obama ou à Joe Biden? Si tu dis qu'ils s'inscrivent tous dans ce même courant de recentrage sur l'Amérique, qu'est-ce qui évolue concrètement sous le mandat de Trump?
Il y a quelque chose de très important qui est le mépris qu'il a toujours exprimé vis-à-vis des alliances diplomatiques et militaires américaines. Il considère que ça coûte de l'argent et que ça peut contraindre les États-Unis à se retrouver dans une guerre qu'ils n'auraient pas voulu. Donc, ça l'embête. Et c'est quelque chose qu'il a exprimé dès une première tentative en politique en 1987. Et cette défiance vis-à-vis des alliances vaut autant pour l'Europe que pour l'Asie, où les États-Unis comptent aussi d'importants alliés au Japon et en Corée du Sud. À ce mépris des alliances, Trump ajoute quelque chose de très personnel, c'est son approche purement transactionnelle des relations internationales. C'est un peu le produit de son parcours professionnel, promoteur immobilier. L'idée que lui peut retirer un bénéfice personnel d'un coup d'éclat et surtout qu'on peut discuter avec tout le monde, quelles que soient leurs valeurs, avec un dictateur comme avec un responsable démocratiquement élu.
Et puis, il y a sa personnalité aussi qui, j'imagine, ajoute une part d'imprévisibilité. On se rappelle de ses séries de tweets un peu déconcertants lorsqu'il était président, comme celui posté en 2018, par exemple, où il disait qu'il avait un plus gros bouton nucléaire que le président nord-coréen Kim Jong-un.
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un vient d'affirmer que le bouton nucléaire est sur son bureau en permanence. Quelqu'un de son régime, épuisé et affamé, pourrait-il l'informer que moi aussi, j'ai un bouton nucléaire, qu'il est beaucoup plus gros et plus puissant que le sien, et que mon bouton fonctionne?
Une fois arrivé à la Maison-Blanche, Donald Trump a considéré que la politique étrangère pouvait, comme la politique intérieure, lui donner l'occasion de transformer chaque journée en un épisode de télé-réalité dont il était toujours le héros et où il était toujours au centre. Trump a toujours eu la conviction qu'il fallait faire le show.
Et donc, qu'est-ce que ça a donné tout ça? Est-ce que tu pourrais nous résumer un peu son bilan en matière de politique internationale?
Lorsque Donald Trump arrive à la Maison-Blanche, il retire aussitôt les États-Unis d'une série d'accords internationaux. Il y a par exemple un traité de libre-échange en Asie qui permettait pourtant d'endiguer la Chine. Il y a aussi l'accord sur le climat, l'accord de Paris. Et il y a enfin l'accord sur le nucléaire iranien. Il fait cela, notamment dans le dernier cas, en pensant, en prétendant arriver à un accord meilleur, mais qui ne se concrétisera jamais. Il prend aussi d'autres décisions d'importance majeure, par exemple le transfert de l'ambassade américaine en Israël de Tel Aviv à Jérusalem. Il va aussi s'aligner totalement sur les positions israéliennes, comme on le verra à l'occasion d'un plan de paix morné présenté en janvier 2020. Et pour une bonne partie, l'impasse dans laquelle on se trouve aujourd'hui sur la question israélo-palestinienne a été aggravée par les prises de position de Donald Trump pendant son mandat. Et il y a aussi des décisions qu'il ne parviendra pas à mener à bien. Par exemple, le projet de retirer des troupes américaines stationnées en Allemagne ou bien le retrait de forces spéciales déployées dans l'Est syrien. Dans ce dernier cas, ce qui est intéressant, c'est que son secrétaire à la Défense, James Mattis, parviendra à finalement le convaincre que du fait de la présence dans cette région de Syrie de puits de pétrole, une obsession de Trump depuis l'échec pétrolier les chocs pétroliers des années 70, eh bien, il arrivera à lui dire que c'est une bonne idée de conserver des troupes américaines ici.
Et aujourd'hui, alors que la campagne présidentielle bat son plein, est-ce que quelque chose a changé dans la manière dont Donald Trump envisage la diplomatie ?
Il persiste et il signe, et toujours sur la même ligne du refus des interventions américaines en dehors de leurs frontières. Il sait qu'elle est gagnante électoralement. Il avait bien vu en 2016 qu'il y avait une prime au vote Trump dans les États qui avaient payé le plus lourd tribut humain dans les dernières guerres contre le terrorisme. Ce qui a changé, c'est qu'il aurait beaucoup plus de marge de manœuvre s'il revenait à la présidence. Il est mieux préparé par rapport à 2016. Lors de son précédent mandat, il ne s'attendait pas à être élu, donc il s'était entouré un peu à la dernière minute de caciques du Parti républicain qui défendaient les idées traditionnelles, notamment en matière d'interventionnisme. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les gens avec qui il avait travaillé au début de son mandat et qui étaient partis au fil des années, ben ne reviendront pas. Ils seront remplacés par des gens qui défendront strictement ses idées. Il a déjà une influence d'ailleurs, sans être redevenu président. L'exemple du budget d'aide à l'Ukraine qui a été longtemps bloqué à la Chambre des représentants sous l'influence des élus qui sont ses plus grands supporters le prouve. Et puis il faut se souvenir que c'est quand même quelqu'un qui avait fait du chantage à l'aide militaire pour son bénéfice personnel, également en Ukraine. Il s'agissait à l'époque d'obtenir en échange de la part des autorités ukrainiennes, l'ouverture d'une enquête sur la personne qui allait devenir son adversaire, Joe Biden. Ça en dit long sur sa conception des relations internationales.
Et donc, à quoi on peut s'attendre, sans faire trop de politique fiction, hein, mais si Donald Trump est élu, à quoi pourrait ressembler sa politique étrangère ?
Alors, une politique étrangère qui serait sans doute très agressive, et agressive de différentes manières. La plus grande inconnue concerne évidemment l'OTAN, dont il avait voulu déjà se retirer en 2018, si on se fie aux mémoires de son ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton. On peut s'attendre à un nouvel assaut, même si, en fait, en laissant entendre qu'il ne porterait pas secours à des pays agressés comme il l'a déjà fait lors de discours électoraux, il aboutirait à un démembrement de l'OTAN sans même avoir à la quitter. Ce désengagement du théâtre européen serait justifié au nom de la rivalité avec la Chine. Mais est-ce que Donald Trump irait jusqu'à soutenir militairement l'île rebelle de Taïwan dans le cadre d'un affrontement avec la Chine ? Rien n'est moins sûr. Et on sait par ailleurs qu'il apprécie la relation qu'il peut avoir avec un homme fort tel que Xi Jinping. Il faut ajouter à cela la systématisation de taxes douanières très agressives qui concerneraient aussi bien les alliés des États-Unis que leurs adversaires et rivaux.
Et pour revenir sur le théâtre européen, pour l'Ukraine, ça voudrait dire un désengagement total ?
C'est probable. Il a dit qu'il serait capable de régler la guerre en 24 heures, ce qui se traduirait évidemment par des concessions importantes faites à Vladimir Poutine.
Je me suis engagé à rapidement mettre fin à la guerre en Ukraine. Quand je dis mettre fin, je vais obtenir un accord très vite. Je connais les deux protagonistes et on peut en avoir un très vite. Mais on ne peut le faire qu'à travers la présidence, lorsqu'on contrôle l'argent qui entre et qui sort. On peut obtenir ça. J'aurai un accord dans les 24 heures.
Les Ukrainiens se raccrochent au fait que, sous son mandat, les États-Unis avaient livré des armes létales alors que Barack Obama s'y était opposé. Mais en fait, cette décision, c'était plutôt pour prendre le contre-pied de son prédécesseur démocrate plutôt que la traduction d'une volonté d'engagement aux côtés de Kiev.
Et dernière question, Gilles, concernant la guerre d'Israël contre le Hamas, qu'est-ce que Donald Trump pourrait faire, sachant que justement, il avait fait ce fameux plan de paix ? Qu'est-ce qui pourrait se passer s'il arrivait au pouvoir ?
Là aussi, il y a une part d'incertitude. La nature transactionnelle de Donald Trump en matière de politique étrangère fait qu'on ne peut pas totalement exclure qu'il ne parvienne pas un jour à un accord avec l'Arabie Saoudite qui se traduirait in fine par la création d'un État palestinien. Cependant, si on se souvient de ce qu'il a fait pendant les 4 ans qu'il a passé déjà à la Maison-Blanche, si on prend en compte le poids de son électorat évangélique qui est très pro-israélien, on ne peut cependant que redouter qu'un retour à la Maison-Blanche de Donald Trump se traduise par l'enterrement définitif de la solution des deux États.
Merci Gilles.
Merci Garance.
Avant de nous quitter, un petit mot pour vous rappeler que nous existons grâce à votre soutien. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description ou à vous rendre sur abopodcast.lemonde.fr pour vous abonner au Monde et accéder à l'ensemble de nos contenus. Merci pour votre fidélité et à demain.